Midi, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et nous sommes aujourd'hui en Ukraine, dans le centre du pays, à Krivoy Rog. C'est une ville industrielle entièrement dédiée à la sidérurgie. Depuis 75 ans, on y exploite le minerai de fer pour produire chaque année des milliers de tonnes d'acier. Cette usine, Krivogrostal, est le plus gros complexe sidérurgique du pays. Mais en 2005, une nouvelle ère s'est ouverte. L'usine a été privatisée au profit du numéro 1 de l'acier mondial, le groupe Mittal Steel, qui est devenu par la suite ArcelorMittal. Et cela ne va pas sans conflit et sans bouleversement, vous allez l'entendre. Grand reportage à Krivoy Rog, Camille Magnard.
On est en pleine coulée, on en a 10 comme ça par jour. À chaque fois, on produit entre 500 et 550 000 tonnes d'acier en fusion. Et chaque tonne d'acier se vend près de 200 euros. C'est cet acier qui nous nourrit tous.
Il devient volontiers lyrique, le contremaître Vassili Adaminka, quand il parle de son haut fourneau. Entre le clapotement du métal en fusion, le vacarme du fourneau et la chaleur irradiante de cette lave qui s'écoule sous ses pieds, le fondeur est ici dans son univers.
Moi, j'ai travaillé toute ma vie ici. Vous n'étiez pas encore né que moi, j'étais déjà sur le haut fourneau. Je travaille ici depuis 66. Je me souviens quand j'étais jeune, ici, il y avait énormément de poussière. C'était très dur. Mais maintenant, tout est aspiré, vous le sentez? Quand ils ont conçu ce fourneau en 66, il fallait 15 fondeurs pour le faire fonctionner. Mais aujourd'hui, on a amélioré les conditions de travail. Alors il y a besoin de moins de monde ici.
Nous sommes ici au cœur de la sidérurgie ukrainienne. Le combinat Krivoy Rogstal, dans la ville de Krivoy Rog, c'est l'un des principaux piliers de l'économie nationale, après avoir été à l'époque soviétique un fleuron du complexe militaro-industriel de l'URSS. L'acier fondu dans le haut fourneau numéro 8 de Vassili est ensuite acheminé sur des kilomètres de rails à travers l'immense territoire de l'usine jusqu'au laminoir numéro 1 que dirige Vladislav Poniatowski.
Nous exportons notre production dans toute la CEI, en Ukraine et dans le monde entier. Aujourd'hui, on vend beaucoup en Inde, en Afrique, en Amérique, dans le monde entier. C'est une fierté pour nous, on aime notre profession et notre usine. Je vais vous dire une chose, si l'usine ferme, la ville meurt. C'est simple, il y a à peu près 700 000 habitants en ville et l'usine en emploie autour de 40 000. Avec leur famille, si vous multipliez par 3, on a au moins 120 000 personnes qui dépendent directement de l'usine pour vivre.
Une ville entière dont la vie s'est organisée à l'époque soviétique autour de l'usine d'État. À Krivoy Rogstal, on allait gagner son pain, mais bien plus que cela. Traditionnellement, la direction du combinat régit tous les pans de l'organisation sociale de la ville. Santé, culture, éducation, mais aussi loisirs et alimentation. Tout ce système a persisté bon an mal an après la chute de l'URSS. Et puis la nouvelle est arrivée par les chaînes de télévision. C'était le 24 octobre 2005.
Aujourd'hui à Kiev a eu lieu la vente aux enchères de 93% des actions du combinat Krivoy Rogstal, le plus grand complexe métallurgique d'Ukraine. La vente s'est faite en présence des plus hauts représentants de l'État ukrainien. Rappelons que l'usine avait été privatisée une première fois l'an dernier au profit de l'homme d'affaires Viktor Pinchuk, le gendre de l'ex-président Kouchma, dans des conditions qui ont été jugées illégales par la justice. Le nouveau propriétaire de l'usine est donc le groupe multinational Mittal Steel qui a dû débourser plus de 4,5 milliards de dollars pour emporter l'enchère.
Au prix de 24 milliards 200 millions de grivnia, adjugé au candidat numéro 3.
Krivoy Rogstal, privatisé, reprivatisé même, l'affaire a eu un retentissement énorme dans l'Ukraine de l'immédiat après Révolution Orange. Le nouveau pouvoir a voulu en faire un symbole de sa rupture avec les privatisations opaques des années précédentes, quand les oligarques proches du pouvoir se sont partagés à prix d'amis les principales richesses industrielles du pays. C'est donc dans un contexte politique très particulier que le géant mondial de l'acier Mittal Steel, puis ArcelorMittal, est arrivé en Ukraine. La multinationale a installé ses cadres indiens et européens à la direction de l'usine et ses logos modernes à côté des fresques soviétiques qui décorent les bâtiments. Comme beaucoup à l'époque, dans son laminoir numéro 1, Vladislav Poniatowski a vécu toute cette période avec résignation.
Nous, tant qu'ils nous payent le même salaire, on est prêt à travailler, on est des professionnels avant tout. Maintenant, on doit porter le logo d'ArcelorMittal, mais dans notre cœur, on reste tous des gens de Krivorostal. Nos grands-parents, nos parents ont travaillé ici. Moi, mon père et ma mère travaillaient tous les deux pour Krivorostal. Alors ArcelorMittal, je ne vais pas travailler mieux ou moins bien, parce que c'est maintenant que je travaille pour eux. Ça dépendra seulement s'ils payent bien ou pas.
La cage de la mine Artium remonte une trentaine d'ouvriers. Sur leurs casques aussi portent les couleurs d'ArcelorMittal, car le complexe sidérurgique de Krivoy Rog utilise son propre minerai qu'il extrait d'un gisement particulièrement riche à plus de 1000 mètres sous l'usine. Mikhail Weiss travaille depuis 9 ans à la direction de la mine.
Quand l'usine a été vendue aux enchères, elle employait 54 000 personnes. Aujourd'hui, on est moins de 40 000. À peu près un tiers des travailleurs ont dû partir. Et rien que pour la mine, on avait 2 300 personnes et il en reste moins de 1 600. Là encore, l'effectif a diminué d'un tiers. Alors bien sûr, ceux qui sont partis ont eu de bonnes conditions de départ volontaires. Mais la charge de travail, elle reste la même. Ils veulent même qu'on travaille plus, alors qu'on est beaucoup moins. Le travail est donc devenu beaucoup plus dur et même avec ces rythmes intensifs, on n'arrive pas toujours à remplir les objectifs qu'ils nous fixent.
Réduire les effectifs pléthoriques de l'usine, dégraisser le mammouth post-soviétique, tel semble avoir été le premier objectif d'ArcelorMittal en arrivant à Krivoy Rog. Depuis 2008, c'est un Français, Jean Jouet, qui a pris les commandes de l'usine, un ancien d'Arcelor qui a fait ses armes dans le bassin Lorrain et à Dunkerque. Au gré de la fusion d'Arcelor et de Mittal en 2006, c'est lui qui a été choisi pour relever l'ambitieux défi ukrainien de Krivoy Rog.
C'est vrai que le nombre de salariés a diminué, mais que le salaire a augmenté. Hein. Donc, on va vivre dans cette région du monde ce qu'on a vécu dans l'Europe de l'Est, ce qu'on a vécu avec les pays l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans l'Union européenne à l'époque. Le salaire moyen, il augmentera, enfin, je l'espère pour les Ukrainiens, et la productivité s'améliorera, et elle atteindra un jour le même niveau que, ou un niveau comparable aux pays voisins, et ça prendra un certain temps, et le pays aura à régler cette transition-là. Hein. Mais l'Ukraine a fait le choix d'une évolution démocratique, d'une évolution vers un certain nombre de normes et de modèles, qui est le modèle, je dirais, ouest européen. On peut espérer, et en tout cas, on fait tout pour contribue, nous, à notre place, pour faire évoluer le pays dans la bonne direction.
Une multinationale à l'assaut d'un géant industriel post-soviétique, forcément, le choc des cultures est rude. D'autant qu'en prenant le contrôle de Krivoy Rostal, ArcelorMittal se retrouve propriétaire de tout ce que l'on appelle ici la sphère sociale de l'usine. Les hôpitaux, les centres de vacances au bord de la mer Noire, les salles de sport et de spectacle, mais aussi, plus étonnant encore, une ferme collective, comme l'explique Oleksandr Zozulia, il est responsable des questions sociales pour l'entreprise.
Notre exploitation agricole se compose de 5000 hectares de terre et fait travailler 200 personnes. Le but, c'est de cultiver des céréales pour couvrir les besoins de l'usine en féculents, farine et semoule. On n'achète rien du tout à l'extérieur. On a une usine qui fournit le pain, les brioches à l'usine et à la ville. Et notre objectif de notre ferme, c'est d'assurer les besoins de la communauté en viande, en produits laitiers. On a à peu près 1300 têtes de bétail, dont 500 vaches. Elles nous fournissent en ce moment autour de 5800 litres de lait par jour. Et puis bien sûr, ici en Ukraine, notre fierté, c'est le salaud, le lard. On a 5700 cochons grâce auxquels on couvre tous nos besoins en viande de porc pour nos cantines. Et on produit aussi une saucisse qui est de loin la meilleure de toute la ville.
En rachetant Krivoy Rostal, ArcelorMittal s'est donc retrouvé aux commandes d'une sorte de réplique miniature de la société soviétique. Un comble pour une multinationale qui n'est pas franchement connue à travers le monde pour ses préoccupations sociales. Mais dans le cas de Krivoy Rostal, ArcelorMittal n'a pas vraiment le choix. Le maintien de ce système social, des effectifs et des salaires, tout cela fait partie des conditions signées avec l'État ukrainien lors de la privatisation en 2005. Valentina Semyenyuk est députée socialiste à l'époque. Elle dirigeait le fonds des propriétés de l'État. C'est donc elle qui a dirigé la vente de l'usine.
La plus grosse erreur qui a été faite ici en Ukraine depuis l'indépendance, c'est qu'on a vendu des usines d'État qui étaient rentables et qu'on les a vendues à des oligarques. époque, une seule, Krivoroshtal, a été reprise des mains de ces oligarques et privatisée dans des conditions transparentes. Moi, j'étais contre la privatisation, mais j'ai fait en sorte que l'État garde son mot à dire sur la gestion de l'usine pendant 25 ans. La première privatisation illégale au profit des oligarques, Pintchouk et Akhmetov, prévoyait des obligations sociales pour le nouvel actionnaire seulement pendant 6 mois. Donc au bout de 6 mois, ils auraient pu licencier tout le monde, arrêter de payer les salaires. Avec Mittal, on a donc prévu une durée de contrôle beaucoup plus longue, 25 ans. Et le paquet d'obligations sociales est beaucoup plus contraignant.
Au sommet de l'État ukrainien, on maintient donc la pression sur le nouveau propriétaire. Pour ArcelorMittal, c'est en quelque sorte le prix à payer pour pouvoir exploiter une usine très rentable à long terme. Et le jeu en vaut, semble-t-il, la chandelle, selon Jean Jouet, même s'il faut pour cela plonger dans les eaux troubles du monde des affaires ukrainien.
Une des attentes des autorités, lorsqu'elles avaient accueilli avec bienveillance cette privatisation et l'arrivée d'une entreprise de l'Ouest, je dirais, pour prendre en charge cette usine, c'est que nous contribuions par, je dirais, notre exemple, à faire bouger dans un certain nombre de domaines. Ce rôle de vecteur un peu de changement est attendu de notre part dans le domaine de la qualité, dans le domaine de l'éthique, des affaires, quand même pas un petit sujet dans ce pays. Et donc il est important que nous ne répétions pas les comportements qui existaient quand nous sommes arrivés et qu'à travers ça on contribue à faire évoluer le pays. On vit dans un environnement où la corruption, vous le savez bien, est présente. On essaie de se comporter différemment. Moi, ça m'est... J'ai refusé d'entrer dans des jeux de corruption.
La partie s'avère beaucoup plus compliquée que prévu pour ArcelorMittal. En s'imposant dans le grand business ukrainien, le groupe dérange un schéma complexe où les intérêts politiques, économiques et criminels se mêlent au sommet de l'État. ArcelorMittal s'est donc rapidement fait beaucoup d'ennemis en Ukraine, à commencer par ces oligarques locaux qui ne pardonnent pas à la multinationale de leur avoir soufflé cette usine qu'ils croyaient déjà tenir dans leurs mains. Depuis 2005, les conflits se multiplient autour de Krivoy Rog. L'usine doit par exemple faire venir son charbon d'Amérique du Sud, faute de pouvoir se fournir en charbon ukrainien chez les barons du Donbass à l'est du pays. Et ces derniers mois, plusieurs attaques violentes ont visé les dirigeants de l'usine. Dans le foyer de travailleurs numéro 14 du combinat, on est bien loin de ces grandes manœuvres. Ici, dans une barre d'immeubles vétustes, s'entassent depuis 10, parfois 15 ans, des familles d'ouvriers de Krivoy Rogstal qui n'ont pas les moyens de louer un appartement en ville. À chaque étage, des nuées d'enfants qui jouent dans les couloirs, des voisins qui se croisent et des femmes qui discutent dans la cuisine collective. Comme elle, Lena attend son tour pour utiliser l'une des 3 vieilles cuisinières à gaz.
Vous voyez, on a tout le temps des coupures d'électricité ou d'eau. On doit faire la queue dans la cuisine collective parce qu'il n'y a pas d'eau chaude dans les chambres. C'est ici la cuisine commune, c'est la seule pour tout l'étage. Il y a 43 chambres en tout et dans chaque chambre, il y a une famille de travailleurs de l'usine. La plupart avec 2 ou 3 enfants. On vit comme ça depuis 10, 15 ans. Avant, au moins, on avait la perspective d'avoir un appartement par l'usine. Mais avec les nouveaux propriétaires, on ne sait plus quoi penser.
Lena partage sa petite pièce avec ses 2 enfants et son mari. Ouvrier, la mineure Nikolai nous explique qu'il occupe depuis 4 ans les fonctions de secrétaire au sein de sa section syndicale. Le syndicat, dans cette ancienne usine soviétique, c'est un organe incontournable du pouvoir. Très lié à la direction, il prend en charge tout ce qui concerne la sphère sociale de la vie de l'entreprise. À en croire Nikolai, depuis l'arrivée d'ArcelorMittal, ce bel équilibre est en train de disparaître.
Les relations sont plutôt tendues entre le syndicat et la nouvelle direction. Ils ne nous aident pas. On ne voit aucune bienveillance de leur part. Tout ce que l'on voit, c'est que l'administration veut couper dans les dépenses, réduire tout ce qui concerne la sphère sociale. Bien sûr, dans un premier temps, on trouvait que c'était plutôt une bonne chose qu'un groupe étranger ait été choisi pour diriger l'usine. C'est grâce à ça qu'on a réussi à traverser la crise sans baisse des salaires et sans réduction du temps de travail. Mais pour ça aussi, il a fallu que le syndicat se batte vraiment avec la direction.
Dans le petit musée de l'usine, les photos de l'Indien Lakshmi Mittal et du Français Jean Jouet cohabitent désormais avec celles des dirigeants soviétiques qui ont marqué l'histoire des lieux. Le patron français préfère se couler dans le moule plutôt que de tenter le grand chambardement. On le voit donc poser pour la photo officielle avec des groupes d'enfants d'ouvriers dans les centres de vacances du groupe ou remettant des récompenses aux travailleurs méritants. et lui-même reconnaît en riant saluer chaque matin en arrivant au bureau la grande statue de Lénine qui se dresse toujours à l'entrée de l'usine. Mittal City en Ukraine, un reportage de Camille Magnard, réalisation Marc Minatel.
Camille Magnard, que l'on retrouve à présent en direct de Kiev, bonjour.
Bonjour.
L'histoire de cette privatisation, Camille, on le comprend en vous écoutant, c'est une histoire de choc des cultures, hein, cette multinationale qui se heurte à un système social hérité de l'époque soviétique.
Oui, alors la persistance hein, d'héritage de la période soviétique dans la société ukrainienne, c'est une réalité qui est plus ou moins vérifiée, mais qui est particulièrement prégnante hein, dans ce contexte d'une ville mono-industrielle et d'une grande usine très stratégique comme celle de Krivorostal. Dans ces villes, tout ou presque dans la vie des habitants était régie à l'époque soviétique et reste encore aujourd'hui régie par la direction de l'usine qui était très liée au pouvoir politique et par ce syndicat unique, lui aussi très lié à la direction. Donc de l'usine dépendait et aujourd'hui dépend encore mais l'attribution des logements, on l'a entendu, les écoles, les hôpitaux, les loisirs et même la nourriture. Hein. Donc il faut imaginer qu'un groupe comme ArcelorMittal, une multinationale de tradition plutôt libérale, qui se retrouve aujourd'hui à gérer non seulement cette usine sidérurgique, mais aussi toute une ville, hein, presque à commencer par des centres de vacances sur la mer Noire et une usine à saucisses, donc, comme on l'a entendu. Donc c'est ce qui est intéressant dans cet exemple. Et ça nous montre aussi que ce modèle social, quoi qu'on en pense, doit rester en place aujourd'hui, ou en tout cas ne peut pas être chamboulé, parce qu'il permet de vivre à ces dizaines de milliers de travailleurs et à leur famille, malgré un salaire moyen de moins de 200 euros par mois.
Alors c'est dans ce contexte qu'on a assisté l'été dernier à une brusque montée de tensions. L'équipe d'ArcelorMittal a même été directement visée, Camille.
Oui, on se souvient en particulier cet été de deux agressions, dont une à main armée, hein, qui ont pris pour cible des très proches collaborateurs de Jean Jouet, des membres de la direction d'ArcelorMittal à Krivoy Rog. À chaque fois, heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais des blessures parfois graves. Et surtout, un climat très tendu hein, qui est tombé sur les représentants d'ArcelorMittal. Le directeur général Jean Jouet ne sort plus désormais sans ses gardes du corps. Il circule dans un gros 4x4 aux vitres fumées. Alors forcément, pour un chef d'entreprise habitué aux méthodes européennes, c'est plutôt choquant. Mais en fait, c'est assez classique ici où le monde des affaires reste potentiellement assez violent. Ce genre de méthode d'intimidation n'est pas si rare en Ukraine, surtout quand on touche à l'industrie lourde qui reste la chasse gardée des principaux oligarques du pays. Et précisément, dans ce cas, on pense plutôt à des attaques qui auraient été commandités par des milieux d'affaires de Krivoy Rog, des acteurs du pouvoir politico-économique qui ont vu leurs intérêts menacés par l'arrivée du groupe international qui dit, on l'a entendu, à refuser la corruption, une corruption qui reste malheureusement une règle de fonctionnement dans le business ukrainien.
Camille, l'Ukraine vient d'élire tout récemment Viktor Yanukovych hein, à la présidence. On le décrit comme un proche des oligarques. On imagine mal cependant qu'il revienne sur cette privatisation.
Oui, c'est vrai que dans l'entourage hein, très proche du nouveau président, on retrouve beaucoup de ces hommes d'affaires très riches, ces oligarques qui, dans les années 90, se sont constitués des grands empires industriels en bénéficiant de privatisations à prix d'amis. On pense bien sûr à Rinat Akhmetov, qui est un ami très proche et un sponsor de Viktor Yanukovych et qui faisait partie, on l'a entendu, de ces deux oligarques qui ont racheté l'usine de Krivorostal en 2004. À l'époque, Viktor Yanukovych était le premier ministre, c'est lui qui avait géré cette privatisation, et Akhmetov avait pu racheter l'usine associée au gendre du président, on voit encore les connivences, pour 550 millions d'euros, et la justice avait finalement invalidé cette privatisation pour que l'usine soit rachetée par ArcelorMittal pour un prix 6 fois plus élevé. Donc, avec le retour au pouvoir de Viktor Yanukovych, c'est vrai que certains voient revenir aussi plus d'influence pour ces groupes oligarchiques, et certains imaginent que Akhmetov pourrait tenter de reprendre le contrôle d'ArcelorMittal, mais c'est quand même peu probable, puisque l'arrivée de cette multinationale est un symbole très fort de la politique de l'économie ukrainienne.
Merci Camille Magnard.